Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Est-ce que tout le monde a accès à l'eau potable au Mali? Que faut-il faire pour permettre l'accès de tous à l'eau potable au Mali? Pour répondre à ces questions et à d'autres avec nous sur ce plateau, M. Abdoul Karim Kone. Abdoul Karim, bienvenue.
Merci.
Il est chef du département communication à la Société malienne pour la gestion de l'eau potable, SOMAGEP. Idrissa Camara, bienvenue.
Bonjour à tous.
Vous êtes le vice-président de la coalition pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement CAEFA. Et M. Karim Dambélé, bienvenue.
Merci.
Et vous êtes géophysicien, hydrologue, expert des questions d'eau potable. Et à la présentation, je suis Aliou Sidibé. La mise en onde est assurée par Gagné Kanté. Bienvenue à vous tous.
Un grand dialogue.
L'eau potable, une denrée qui se fait de plus en plus rare. Son accès est souvent source de conflits. Pourtant, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement a été reconnu par les Nations Unies comme un droit humain. Le Mali a adopté sa politique nationale de l'eau assortie du code de l'eau. Aussi, le Mali s'est engagé à l'accès universel à l'eau potable d'ici 2030. Pour introduire ce chapitre, je vous propose d'écouter une auditrice.
Moi, je voudrais demander à propos de l'eau potable au Mali, si elle est vraiment potable, si l'eau qui nous arrive du robinet est potable, parce que de plus en plus, je vois les nantis acheter des cartons d'eau minérale. Donc, ça veut dire que l'eau qui vient chez nous, dans le robinet, n'est pas potable. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Merci.
Oui, Karim Dambélé. Comment l'eau potable est produite au Mali?
Okay, bonjour, merci. L'eau potable est produite au Mali essentiellement par la société de gestion de l'eau, qu'on appelle la SOMAGEP, qui est chargée de la distribution de l'eau au Mali. Et bon, après ça, il y a d'autres. Petites unités en milieu rural qui des gestions des comités de gestion autonomes dans le milieu rural qui se chargent de la production de l'eau. Donc essentiellement au Mali, c'est la SOMAGEP qui est chargée de la distribution de l'eau potable au Mali.
Alors, Abdoul Karim Kone, vous êtes chef département communication de la SOMAGEP. Alors, il vient de dire que c'est la SOMAGEP qui produit avec d'autres petites productions à côté. Alors, est-ce que toutes les eaux produites au Mali sont potables?
Merci beaucoup, je remercie tout le monde. Je remercie les auditeurs de la radio et merci de m'avoir invité à ces débats. Et ce que je peux dire, l'eau, elle est produite par la SOMAGEP SA. La SOMAGEP SA, c'est la Société malienne de gestion de l'eau potable. Et quand vous voyez notre mission fondamentale, c'est la promotion de l'eau potable sur tous les territoires du Mali. Donc, en termes de mission spécifique, nous cherchons de l'eau, nous prenons de l'eau dans le fleuve, et ensuite, nous traitons cette eau et nous distribuons l'eau jusqu'à chez le consommateur à partir des robinets. Donc, ça, c'est notre mission. Maintenant, pour ce qui concerne les petites unités de production, comme M. Dambélé vient d'évoquer, je ne sais pas si c'est des unités de production ou si ce sont des unités de commercialisation de l'eau, parce que généralement, ce sont des gens qui prennent l'eau de la Société malienne de gestion de l'eau potable, les enchâssier et les vendre dans la ville. Mais je ne sais pas si c'est une production, on doit les appeler des unités de production ou si c'est des unités commerciales.
Ok.
Je crois que mon homonyme n'a pas compris. Quand j'ai parlé à l'échelle nationale, c'est-à-dire que la SOMAGEP, Bamako, le Mali ne se limite pas uniquement, c'est-à-dire que dans les grandes villes. Je prends un exemple où vous partez dans les communes, dans les chefs de lieu de communes. Dans la plupart des cas, la SOMAGEP n'existe pas.
Maintenant, pour ça, il y a des ONG, c'est-à-dire il y a l'État, des partenaires des ONG qui interviennent, qui font des forages, qui réalisent des adhésions d'eau. Mais pour gérer l'eau, ils créent des comités locaux qui gèrent la production de l'eau. Mais... même à Bamako, ici, il y en a. Je donne l'exemple le plus frappant, Samé, que j'ai même participé à la réalisation de ces unités-là. Il y a une commission locale à Samé qui ont des forages, qui ont des châteaux, qui produisent et même qui gèrent.
Mais est-ce que selon vous, toutes ces eaux produites au Mali sont potables?
Bon,
les eaux produites par ces
sont potables. Okay. Elles sont potables parce que dans la plupart des cas, c'est-à-dire que c'est des subsalistes qui le font. Et généralement, si on analyse la qualité de l'eau avant de distribuer, si ça s'avère qu'il y a des problèmes, il y a des petites unités de traitement qu'on appelle les pompes doseuses qu'on utilise avant de distribuer l'eau à ces populations.
Ok. Donc, les consommateurs sont représentés autour de cette table. Donc, Idrissa Camara, vous êtes représentant de la CAEFA. Alors, M. Camara, quels sont les différents types d'eau produites au Mali auxquelles vous avez connaissance?
Voilà, avant de répondre à votre question, je pense qu'il est important de rectifier un tout petit peu quand vous dites que c'est les consommateurs. C'est vrai que je suis consommateur, c'est vrai, mais je ne représente pas l'association malienne des consommateurs ici.
Non, pas à tête.
Voilà, oui. Je donne cette précision parce que nous sommes en radio. Il ne faudrait pas qu'on dise que il dit à la prétention de représenter les consommateurs. Je ne représente pas les consommateurs. Okay. Je suis vice-président de la coalition nationale pour la campagne internationale pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Voilà, là, c'est une plateforme, n'est-ce pas, qui regroupe l'essentiel des organisations de la société civile qui opèrent dans, n'est-ce pas, le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Okay. Donc, c'est un regroupement d'organisations de la société civile du secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement.
Tout okay? à fait.
C'est oui. important de le préciser.
Merci.
Alors, vous me demandez si...
Les différents types d'eau potable au Mali. Les différents types d'eau produites au Mali,
voilà, vous avez connaissance. L'eau de façon générale, il y a l'eau potable et l'eau non potable simplement. L'eau potable et l'eau non potable.
Qu'appelez-vous eau potable et eau
l'eau
non potable?
L'eau potable, c'est l'eau qui a été certifiée propre à la consommation. C'est ce que la SOMAGEP distribue. C'est ce que la SOMAGEP produit et distribue à travers leurs robinets. Donc, l'eau qu'on reçoit des robinets est potable. Je peux certifier de cette potabilité parce que cette eau est soumise au laboratoire national des eaux qui certifie, qui analyse, qui démontre que voilà, c'est de l'eau potable.
Okay.
Maintenant, en ce qui concerne d'autres producteurs, moi, je n'ai pas cette certitude-là. Je pense que ça ne peut même pas faire l'objet du débat.
Mais
la mesure où il est difficile aujourd'hui de pouvoir prouver que toutes ces autres sources d'eau produisent effectivement de l'eau potable.
Mais selon vous, dans ces cas, est-ce qu'il s'agit d'un monopole de l'État, la production de l'eau au Mali?
Je ne pense pas que ça soit un monopole. M. Dambélé l'a dit, la SOMAGEP ne couvre pas pour l'instant tous les territoires du Mali. Donc à partir du moment où une société, même nationale, ne couvre pas l'intégralité du pays, on ne peut pas parler de monopole. Et d'ailleurs, en ces temps-ci, je ne pense pas que le gouvernement du Mali ait intérêt à vouloir faire du monopole en ce qui concerne la production et la distribution, n'est-ce pas, d'un produit aussi essentiel que l'eau.
Alors,
le gouvernement du Mali ne peut pas prétendre à cela. Il faut ouvrir pour que l'essentiel, pour que tous les Maliens puissent accéder à de l'eau potable, parce que c'est inscrit dans notre constitution. Nous avons également souscrit à tous ces textes-là qui régissent la question de l'eau, un droit fondamental reconnu par les Nations Unies, donc reconnu par le Mali.
Alors, si ce n'est pas un monopole de l'État, j'en viens tout de suite aux géophysiciens. Donc, est-ce que moi je peux, par exemple, faire un forage dans mon jardin? Et quelles seraient les limites de mes responsabilités? Par exemple, je creuse un forage, je mets des produits de lin, donc juste pour purifier l'eau, et voilà que la nappe phréatique de toute la zone se trouve être infectée. Ouais. Alors, est-ce que ça, c'est possible?
Effectivement, ces questions-là, c'est vraiment c'est une question très, très importante. Et aujourd'hui, c'est derrière ce qui se passe au Mali. Et vu que la SOMAGEP n'arrive pas à couvrir les quartiers périphériques, vous partez, vous construisez vos maisons, tout est construit. Souvent, il y a l'électricité, il n'y a pas d'eau. Que faire? Rester en location ou bien partir? Maintenant, la population sollicite des entreprises locales pour aller réaliser des forages. Et à partir de ces forages-là, ils alimentent leurs bâtiments.
Mais quelles sont les limites de mes responsabilités?
Maintenant, par rapport à ces limites, l'hydraulique a déjà pris le devant. L'hydraulique avait prisé. Mais comme vous savez, au Mali, les choses, c'est-à-dire que les choses ne sont pas respectées, ne sont pas normées. Donc, l'hydraulique a demandé, la direction nationale de l'hydraulique a demandé à ce que les particuliers, avant la réalisation de ces forages privés, de demander d'avoir une autorisation pour pouvoir réaliser des forages. D'abord, ça a deux buts. Ça permet de savoir réellement est-ce que les forages ont été réalisés dans les normes. Déjà, l'hydraulique pourra, c'est-à-dire qu'il décide d'appuyer sur le bouton pour dire que, attention, ce forage n'a pas été bien réalisé dans les normes, avec les données. Donc, quand le forage va être réalisé, ces données sont transmises à l'hydraulique et ça permet de savoir, parce que c'est de l'exploitation de l'eau souterraine, c'est une question sensible, parce que c'est une question complexe. On ne sait pas quelle est l'influence de l'exploitation de ces eaux-là. Tout le monde va exploiter. Moi, j'ai fait chez moi. Lui, il fait à côté. L'autre, il fait à côté. Il y a quand même des normes hydrogéologiquement qu'il faut respecter en termes de distance par rapport au forage. Mais ces questions, ça permet à l'hydro de pouvoir gérer ces questions. Mais au-delà de ça, et si c'est fait par rapport à la potabilité de l'eau qu'il réalise légalement, parce que légalement, il essaie d'avoir un document, une autorisation. Mais ce n'est pas cela qui se passe.
Mais est-ce que ça se passe comme ça?
Ça ne se passe pas comme ça, malheureusement.
Alors.
Ça ne se passe pas comme ça. Donc, et après la réalisation du forage, il y a, comme M. Kamara l'a dit, il y a le laboratoire national des eaux. Vous pouvez solliciter le laboratoire national des eaux pour votre propre santé. Il passe au forage, ils prennent un échantillon pour analyser, pour pouvoir s'assurer que ce que vous êtes en train de consommer, c'est bien ou c'est pas bien.
Ok, merci M. Dambélé. Nous en revenons au représentant de la SOMAGEP. Alors, M. Abdoul Karim, quelles sont les limites de nos responsabilités dans ce cadre-là?
Avant d'en venir à cette question, je crois que je vais revenir sur la qualité de l'eau. M. Kamara a été un peu plus clair. Nous, notre eau, c'est une eau qui répond aux normes de l'OMS. C'est une eau potable. Et je vous avais dit au tout début que l'une de nos missions spécifiques, c'était le traitement de l'eau avant la distribution. Donc ce traitement s'est fait au niveau du laboratoire central de la SOMAGEPSA. Donc c'est un labo hyper équipé, très performant, avec un personnel de qualité. Et nous faisons toutes les analyses possibles pour rendre l'eau potable, à commencer par les analyses physico-chimiques, les analyses bactériologiques. Nous faisons tout ça avant d'envoyer l'eau dans les tuyaux, pour que les consommateurs puissent s'en servir. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, je dis encore, M. Damelé disait que puisque la SOMAGEP n'arrive pas, c'est-à-dire à couvrir les territoires, la SOMAGEP, c'est-à-dire, ça pose un problème franchement de compréhension du cadre institutionnel de la SOMAGEP, en fait, du secteur de l'eau au Mali. La SOMAGEP est une société qui est née avec sa sœur jumelle, la Société malienne de patrimoine de l'eau potable. Donc, suite à la réforme du secteur de l'électricité et de l'eau. Donc, et pour ce qui concerne la mission de la SOMAGEP, avant d'arriver même à la mission de la SOMAGEP, je précise que la Société malienne de patrimoine de l'eau potable plus l'État ont en charge le développement, c'est-à-dire du secteur de l'eau, chercher les investissements et faire des infrastructures. C'est après tout cela que la SOMAGEP SA est appelée pour faire la gestion du secteur. Donc, ce n'est pas nous qui allons, mais on met les dispositions, on met à notre disposition les infrastructures, les réseaux pour que nous puissions aller. Donc, ce n'est pas que nous n'arrivons pas à couvrir, mais c'est parce que les dispositions ne sont pas là pour que nous puissions couvrir l'ensemble du territoire. Sinon, techniquement, ça va.
Ok, nous allons prendre une pause avant de retourner dans ce studio.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Retour donc sur ce plateau avec nos invités, toujours Abdoul Karim Kone, chef département communication à la Société malienne pour la gestion de l'eau potable Somajep, Idrissa Camara, vice-président de la coalition pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement CAEFA, et Karim Dembélé, géophysicien, expert des questions d'eau potable, pour parler de l'eau potable pour tous au Mali, deuxième volet. Et pourquoi il y a pénurie? Alors, à Nioro du Sahel, bien sûr, on nous a dit qu'une source précise que le bidon de 20 litres coûterait 500 francs CFA. D'ailleurs, à propos, nous avons un auditeur qui se pose la question sur la cherté.
Bon, par rapport à cette question d'eau, ce que moi je n'ai pas compris au Mali, on a deux fleuves vraiment qui traversent le Mali. Comment se fait-il qu'on peut avoir l'eau à ce prix? Imaginons que l'eau souvent avoisine le prix même du courant. Et est-ce qu'on se demande même aussi, avec toutes ces chèretés, on n'a pas la bonne qualité d'eau? C'est vraiment, je ne sais pas où on va, quoi.
Alors, monsieur de la Somajep, est-ce que l'eau est une ressource limitée au Mali?
Bon, je dirais bien l'eau, c'est une ressource limitée, parce que, de toute façon, c'est ce qui est dit. Effectivement, mais il faut comprendre aussi que, c'est-à-dire la quantité de la ressource et puis la distribution, c'est pas la même chose. Nous, au niveau de la Somajepessa, mais nous, on dirait même pas qu'on facture l'eau, mais c'est le service de l'eau qui est facturé. Et à moindre coût.
Autrement, c'est, il n'y a pas de prix pour l'eau, mais il y a un coût d'accès à l'eau.
C'est le service de l'eau.
Okay.
Sinon, ce n'est pas l'eau qui est facturée, au fait. Si vous prenez, par exemple, le mètre cube. La Somajep donne le mètre cube à 113 francs CFA. Mais prenez les 113 francs CFA. L'exploitation, les produits chimiques, tout ce qui rentre dans la potabilisation de cette eau-là. Si en réalité on doit vendre cette eau, mais ça peut pas, le mètre cube ne peut pas être à 113 francs CFA. Mais j'ai écouté l'intervenant. Généralement, et les difficultés, ce n'est pas au niveau des grands centres que la Somajep gère, non. Les difficultés, c'est surtout au niveau des petits centres. Là où il y a le déficit, peut-être même à Bamako, là où l'eau, les réseaux de la Somajep n'arrivent vraiment pas très souvent.
Monsieur Camara,
parce que,
Monsieur Camara, chaque année, on observe qu'il y a une période vraiment où il y a manque d'eau cruciale à Bamako.
Naturellement, on va parler de ça. Le manque d'eau n'est rien d'autre que parce que ne s'explique que parce que la Somajep, elle est déficitaire. Nous sommes déficitaires.
C'est-à-dire que
l'offre n'est pas en adéquation avec la demande. Aujourd'hui, vous prenez la ville de Bamako, un exemple. La ville de Bamako, nous avons à peu près 6 unités de production, c'est-à-dire qu'ils font une capacité cumulée de 200 millions de litres d'eau par jour. Quand on sait que la demande, c'est 350 millions de litres d'eau par jour. Donc, il y a un gap de 150 millions de litres d'eau par jour.
C'est énorme. Hein?
Voilà. Ouais. Donc, vous voyez, pendant la période de forte chaleur, les zones qui sont situées en altitude ou qui se trouvent en bout de réseau, ce sont ces zones qui sont vraiment défavorisées. Parce que avant que l'eau n'arrive chez ces consommateurs, ceux qui sont au niveau bas consomment pratiquement l'eau. Donc c'est pourquoi ces gens-là attendent souvent jusqu'à la nuit, vers 1h, 2h du matin, en entendant que ceux qui se trouvent au niveau bas, c'est-à-dire ferment leur robinet, pour que l'eau puisse continuer. Parce que c'est la nuit, les gens ont besoin de dormir. C'est quand les gens dorment au niveau bas que l'eau est à mesure de monter vers les zones qui sont en altitude.
Ok. Merci beaucoup, Abdoul Karim. Monsieur Karim veut réagir. Voilà. Damélé.
Donc, je voulais, par rapport précisément à l'intervenant, je pense qu'il a évoqué une question précise. Ils disent qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a deux fleuves, deux grands fleuves qui traversent le Mali et qu'il n'y a pas d'eau. Précisément à Nioro. Il n'arrive pas à comprendre comment les bidons d'eau peuvent coûter à 500 francs. Mais je m'adresse à la Somajep. Mais à Nioro de Sahel, il y a la Somajep. Il y a la Somajep à Nioro. Donc, on ne comprend pas. C'est une question précise. Malgré qu'il y a la Somajep, comment les bidons d'eau peuvent être à 500 francs à la Somajep.
Non, pas à la Somajep.
Je vais vous expliquer.
Non, c'est
vrai qu'il y a deux fleuves. C'est vrai qu'il y a deux fleuves au Mali. Mais on ne peut pas prendre l'eau dans le fleuve. Il faut un investissement pour accompagner la production
évidemment,
de l'eau.
Évidemment.
Et je venais juste de dire que ce n'est pas la Somajep qui a en charge l'investissement dans le secteur de l'eau. Nous, nous sommes des exploitants. Donc c'est l'État, à travers la Société malienne de patrimoine, qui doit faire les investissements.
Okay.
Donc la présence des deux fleuves, à mon avis, n'est pas, c'est vrai, c'est une réalité, mais ne concerne pas l'activité que la Somajep est en train de faire.
Une
précision,
d'ailleurs, c'est pas l'auditeur qui pose la question par rapport à Nuro.
C'est ça.
Ça, donc, c'est une information
que le problème qui se pose aujourd'hui, je vous dis, parce qu'on parle du prix de l'eau, c'est pas la Somajep d'ailleurs qui fixe le prix de l'eau. C'est l'État, à travers la CRE, qui fixe le prix de l'eau. Nous ne fixons pas le prix de l'eau. Okay. Maintenant, le problème qui se pose, généralement, quand il y a surenchère autour de ça, c'est parce que les gens vont prendre l'eau dans les bornes fontaines. Les revendeurs, c'est eux qui mettent l'accent sur le prix, qu'ils sont obligés de faire des bénéfices.
Ok, on va revenir.
En euros, chez nous, les prix ne changent pas.
Justement.
Voilà. Moi, je voudrais quand même rebondir sur la préoccupation de l'auditeur.
Oui,
il fait allusion au fait qu'il y a deux fleuves dans ce pays-là et que lui, il est étonné que l'eau puisse être vendue aussi cher. Alors voilà, Kone l'a dit, l'eau du fleuve n'est pas consommable directement. Et sinon, les populations riveraines de ce fleuve et tous ces peuplades-là qui travaillent quotidiennement dans l'eau ne se seraient pas posé de questions pour trouver l'eau de boisson. L'eau de boisson, c'est une autre affaire. L'eau de boisson, cela veut dire que c'est une eau potable, donc qui a donc pu être traitée avant d'être consommée. Pour dire que la question de l'eau a été très très prise au sérieux par les différents gouvernements de ce pays. Au niveau institutionnel, au niveau politique, on a eu des très très grandes avancées. Il y a la politique nationale de l'eau, il y a le code de l'eau, il y a l'AGIR qui gère toute la question de l'eau, toutes les eaux. Il n'y a pas que l'eau potable, il y a toutes les eaux. Il y a également le PROSEA, qui est le programme sectoriel eau, hygiène et assainissement. Donc, autant dire qu'au niveau institutionnel, au niveau politique, le pays a connu de très grandes avancées. Maintenant, quant à l'accès des populations à l'eau, même par rapport à ça, beaucoup d'avancées. Parce que si on revient un tout petit peu en arrière, il y a 5-6 ans, le Mali connaissait encore beaucoup de problèmes par rapport à cet instant T-là. Et aujourd'hui, le taux d'accès à l'eau dans les grandes villes, ça tourne autour de 65%. Imaginez-vous.
Oui, 100%.
Hein? Voilà, c'est très intéressant. Il y a 5 ans seulement, ce n'était pas ça. OK?
Oui, ça veut dire à peu près, il y a à peu près plus d'un foyer sur deux qui n'a pas d'eau potable.
Encore. Il y a encore au moins 5 millions de personnes au Mali qui n'ont pas accès à l'eau potable.
Mais Monsieur Camara, est-ce que
c'est énorme, c'est vrai.
Oui,
c'est énorme.
Mais est-ce que selon vous, le Mali peut fournir l'eau potable à tout le monde?
Le Mali, dans l'état actuel des choses, n'est pas en capacité de fournir l'eau potable à tout le monde. C'est clair. Parce que le responsable de la communication de la Somajep a dit tout à l'heure, c'est un problème certainement institutionnel, c'est un problème d'investissement. N'est-ce pas? Les investissements qui sont mis à la disposition de la Somajep ne permettent pas justement à la Somajep, au jour d'aujourd'hui, de pouvoir fournir de l'eau potable à l'ensemble des Maliens.
Justement.
Mais les efforts sont en train d'être faits. Et c'est ça, justement, nous, notre rôle au niveau de la société civile.
Oui.
Nous sommes là pour faire du plaidoyer.
On va revenir.
La pression sur les pouvoirs publics. Parce que nous savons que les pouvoirs
Monsieur
publics.
Camara, on va revenir,
ils ont un devoir.
On va revenir à la question d'investissement.
Oui.
Mais le temps seulement de retrouver, comment dirais-je, une consommatrice de Banamba qui se pose la question. Alors.
Vraiment, il y a de nombreuses difficultés. Parce que qui parle de vie parle d'eau potable. Et aujourd'hui, nous ici, l'accès à l'eau potable est un peu difficile. Bon, nous avons quelques forages à nos dispositions. Et vraiment, parfois aussi, ces forages-là se gâtent et ce n'est pas facile. Quand on fait recours à l'eau, au robinet, vraiment, le prix est un peu élevé pour moi. Et puis aussi, il y a des gens qui se sont approvisionnés chez eux. Et on voit que dans les carrés, ce sont les petits tuyaux qui sont installés. Si la mairie pouvait vraiment installer des tuyaux à grande dimension pour que les gens vraiment s'approvisionnent et puis s'installent les uns aux côtés des autres.
Alors ça, c'est l'exemple de Banamba. Et bon, voilà. Est-ce que, M. Camara, on va revenir à vous, est-ce que, selon vous, l'État investit suffisamment pour satisfaire les besoins?
Bon, peut-être pas suffisamment. Quand on regarde les besoins qui sont exprimés aujourd'hui, on est toujours tenté de dire que l'État n'en fait pas assez. On est tenté de dire que l'État n'en fait pas assez. Mais à regarder de plus près, on s'aperçoit quand même des efforts sont en train d'être consentis au niveau de l'État. Tout n'est peut-être pas parfait. Nous avons connu des avancées grâce à la volonté politique exprimée, parce que l'État du Mali a quand même souscrit à tous les documents importants qui font que la question de l'accès à l'eau est une question universelle. Hein, mondialement, il est dit que toute personne humaine a droit d'accéder à l'eau potable. Le Mali fait des efforts, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Vous savez, en 2015 seulement, on vient de clôturer, n'est-ce pas, les objectifs du millénaire pour le développement. Nous sommes maintenant vers les ODD, les objectifs de développement durable, jusqu'en 2030. Maintenant, tous les objectifs qui n'ont pas pu être atteints jusqu'en 2015, l'effort va être fait grâce à n'est-ce pas, à l'action de tout un chacun de nous. Parce que nous sommes là, nous sommes assez nombreux. Il y a les institutionnels, il y a la société civile, il y a les partenaires techniques et financiers.
Oui,
tout le monde doit s'y mettre pour que les avancées plus notables puissent être faites.
Ok. On va en revenir parce qu'il y a monsieur le géophysicien qui veut rebondir sur la question.
Oui.
Mais en attendant, est-ce que selon vous, on a dit que l'État n'investit pas suffisamment? Est-ce que vous pensez que la solution de proximité proposée par cette dame à Banamba, est-ce que vous pensez que à la date d'aujourd'hui, ça peut résoudre les problèmes?
Difficilement. Difficilement. En fait, bon, je voulais préciser à M. Camara, c'est-à-dire que au Mali, on est passé très rapidement. C'est comment l'eau est, à partir de quoi l'eau est, la population, la desserte est faite en termes de ressources. Au Mali, essentiellement, les ressources, c'est les eaux de surface, qu'on appelle généralement les fleuves. Comme la Soumaïa l'a dit, on traite l'eau à partir de fleuves. Et après, il y a l'eau souterraine qui est exploitée à partir, ça dit, des puits, des forages. Maintenant, par rapport à la question, à cette question, il y a un autre service qui est installé sur ça, c'est-à-dire que la Direction nationale de l'hydraulique. Monsieur Kamal l'a dit, l'État a beaucoup fait. L'État a beaucoup fait. Nous sommes un pays pauvre, il faut le reconnaître. Nous sommes un pays pauvre, c'est vrai. Mais quand on regarde nos voisins de la sous-région, je suis d'accord, il faut dire ce qu'il est.
Mais tantôt, vous avez dit qu'il y a, des risques potentiels pour les solutions de proximité. Est-ce que vous pensez que dans ce cas, ces solutions peuvent être mises en œuvre?
Si il s'agit de mettre, il s'agit d'organiser. Ce n'est pas compliqué. Il s'agit d'organiser. L'État peut organiser. Mais c'est ce côté que l'État est un peu plus différent. La solution de proximité, c'est de prendre les gardes, exiger à ceux qui, pour pouvoir maîtriser ce qui se passe. Qu'est-ce que la population... Parce qu'en fait, c'est une question de santé publique. Vous faites le forage, c'est, l'eau, elle est bonne. Comment elle a été faite? Est-ce que c'est bien? C'est une bonne qualité ou pas? Et on a vu, dans les quartiers périphériques de Bamako, les gens vendent de l'eau. Les gens vendent de l'eau, ils font le forage chez eux. À partir de leur consommation, ils vendent de l'eau à d'autres personnes. Parce qu'il n'y en a pas. Donc, l'État doit pouvoir maîtriser... Qu'est-ce qui se passe? C'est bien le rôle de l'État. Donc, c'est exiger, c'est-à-dire à la population, d'aller soit à partir des mairies, exiger de savoir qu'est-ce que la population a consommé. Est-ce que c'est normé? Est-ce qu'on peut consommer? Donc, c'est au rôle de l'État, ça appartient à l'État d'exiger. C'est son rôle d'exiger à ce que ça, les choses se passent normalement pour, c'est-à-dire donner de la qualité.
Rapidement, une réaction de la Somagère. Est-ce que l'État investit suffisamment?
Bon, avant de répondre à cette question, mais je tiens à dire aux auditeurs que la Somagère, pour le moment, n'est pas à Banamba. Donc, voilà, et, ça c'est clair. Maintenant, pour ce qui concerne les investissements, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des projets structurants qui sont en cours d'exécution. Donc, comme vous le savez très bien, le Mali travaille beaucoup plus avec les partenaires techniques et financiers. Je crois que c'est une des conditionnalités qui a même expliqué la séparation des secteurs de l'eau et l'électricité. Aujourd'hui, il y a quand même des projets structurants qui sont en cours, en l'occurrence le projet de Kavala, qui est en cours, qui prendra...
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, retour sur ce plateau et toujours pour vous rappeler que nous sommes avec Abdoul Karim Kone, chef département communication à la Société malienne pour la gestion de l'eau potable SOMAGEP, Idrissa Camara qui est le vice-président de la coalition pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, et Karim Dambélé qui est géophysicien, il est là en tant qu'expert des questions d'eau potable pour parler de l'eau potable pour tous au Mali. Le troisième volet. Alors, comment rendre l'eau potable accessible à tous? Parce que le Mali il s'est engagé à avoir l'eau potable pour tous d'ici 2030. Alors, en commune 4, une initiative locale a soulagé les habitants. Et à cet effet, nous allons écouter Amadou Aya, il est chargé de communication au niveau de la mairie.
Quand même, il y a des alternatives que l'équipe municipale, depuis 2009, a mises en place pour essayer d'atténuer les souffrances des populations pendant cette période très très difficile. Et dans un premier temps, c'était de faire contribuer la protection civile au niveau des quartiers les plus défavorisés. C'est surtout les quartiers périphériques tels que Lassa et également tels que Kalabambougou et Sibiribougou. Ils sont des quartiers périphériques qui ne sont pas desservis à l'époque par la société EDEM du Mali. C'était une solution à l'époque qu'on avait pu mettre en place donc avec l'équipe de la protection civile pour éviter, pour en tout cas atténuer les souffrances des populations. Et nous savons que ce n'était pas une solution pérenne, mais il fallait réfléchir. Et c'est ainsi que, à partir de 2010, la mairie a essayé de faire des forages équipés de, au niveau de ces localités, avec l'appui également, avec la participation des populations. Mais aussi, il fallait aussi faire ce qu'on appelle une étude géophysique.
Que veut dire une étude géophysique ?
Une étude géophysique, c'est une science qui permet, une étude qui permet de dire ici vous avez de l'eau. À quelle profondeur, quel est le débit. Donc on ne creuse pas au hasard. Il y a des zones où vous avez l'eau, la nappe d'eau est très profonde. Il y a des zones où il n'y a même pas de nappe d'eau. C'est pour ça, quand vous avez parlé du pays, dans certaines zones, il faut aller jusqu'à 100 mètres, n'est-ce pas, pour avoir de l'eau. 150 mètres pour avoir de l'eau, souvent il n'y a pas assez de débit. Mais il fallait aussi, pour mieux gérer, n'est-ce pas, ces équipements, mettre en place des comités de gestion à travers les CDQ. C'est pour cela que vous avez ici un comité de gestion des eaux, de l'eau, les bonnes fontaines, tout ça. Ils se réunissent, discutent, essaient de voir là où il y a des difficultés pour essayer, n'est-ce pas, d'atténuer les populations à cette période. Hein, tous ceux-ci se réunissent autour du maire en charge des questions pour essayer maintenant de juguler là où il y a des difficultés.
Alors, Monsieur Karim Dembélé, vous venez d'écouter cette solution de proximité. On parle d'études géophysiques. Alors, tantôt on a dit que l'État n'a pas les moyens d'offrir l'eau potable à tout le monde ici. Et il y a des risques avec les forages, les solutions de proximité. Alors, est-ce que selon vous, ne faut-il pas rationner la consommation de l'eau potable au Mali ?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, par rapport à ça, Je m'adresse à l'État. Je pense qu'on peut solutionner, c'est-à-dire que les problèmes de l'eau. Il faut. L'État n'a jamais voulu privatiser ce secteur.
C'est-à-dire ?
Privatiser, c'est-à-dire qu'il était allé vers des solutions où les zones où la SOMAGEP n'est pas susceptible de couvrir. Essayer de trouver des partenaires, des spécialistes. Il y a des entreprises, c'est-à-dire qui solides aujourd'hui, qui sont susceptibles de donner de l'eau et de l'eau potable à ces populations. Essayer de voir avec des partenaires privés, les secteurs privés au Mali, il y a des particuliers qui ont assez de moyens conséquents pour pouvoir, ils en profitent et la population est soulagée. On peut demander à ces partenaires privés qui vont travailler avec la SOMAGEP. Là où, par exemple, je prends Bangoni un exemple, mais ces gens-là souffrent. La population de Bangoni, ça souffre. En commune 4, comme M. Aya le disait, à Mamaribou, ces gens, ils souffrent. La SOMAGEP n'existe quasiment pas. Donc, l'État peut voir avec certains partenaires essayer d'ouvrir ce secteur-là, même si après, c'est-à-dire sur un bail sur un certain nombre d'années, et après essayer de revenir à la logique, quoi. Donc, je pense que c'est la solution de proximité. On est obligé. Il faut consommer de l'eau. On est obligé.
Ok. Alors, Monsieur Idrissa Camara.
La question, c'est faudra-t-il pas
rationner la consommation de l'eau potable?
Certainement pas. Certainement pas. Multiplier les initiatives tendant à faire en sorte que tous les Maliens puissent accéder à l'eau, certainement. Rationner, comment voulez-vous qu'on rationne l'eau dans un pays, comme cela a été dit, dans un pays qui a été doté par la nature de deux grands fleuves? On n'en sortirait pas. Déjà, d'aucuns pensent que ce n'est pas normal que ce pays-là, qui est déjà doté de deux grands fleuves, qu'on ait autant de difficultés à accéder à de l'eau. Si on devait rationner, ça va être beaucoup plus compliqué. On ne rationne pas. Ce qui a lieu certainement de faire, c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'accès équitable soit une réalité. On peut faire en sorte que l'accès équitable de toutes nos populations puisse être une réalité sans rationner. Parce que le terme rationner ne me paraît pas approprié ici. L'accès équitable, c'est quoi? C'est de faire en sorte que tout le monde puisse accéder, que la question de l'accès à l'eau ne soit pas une question de personnes privilégiées. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Quand vous allez dans la périphérie de Bamako, généralement, c'est les populations très vulnérables qui sont dans cette partie de la ville. Les populations qui n'ont pas accès à l'eau, parce que tout simplement, c'est les personnes pauvres. Ce qu'il faut, il faudra faire en sorte que les personnes les plus pauvres, les personnes les plus vulnérables puissent davantage accéder à l'eau. Que le pauvre, que le riche, que tout le monde puisse accéder à de l'eau potable qui est un droit fondamental. Alors, l'État est en train, comme je l'ai dit, de faire des efforts. Nous, en tant que société civile, nous continuons de mettre la pression sur l'État en leur disant que l'effort qui est fait, c'est peut-être notable, mais l'effort qui est fait, il n'est pas suffisant parce qu'au jour d'aujourd'hui, il reste encore 5 millions de nos compatriotes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Donc, nous, au niveau de la société civile, nous continuons de secouer les cocotiers parce que c'est un peu l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. Pour l'État, le verre, il est à moitié plein. Pour nous, de la société civile, nous pensons que le verre, il est à moitié vide. Parce que ce que nous considérons, c'est que encore en 2017, qu'il y ait 5 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, ce n'est pas acceptable. Nous continuons à mettre et la pression sur le pouvoir public, l'État, mais aussi sur le partenaire technique et financier. M. Koné l'a dit, le Mali continue d'être dépendant des partenaires techniques et financiers, c'est-à-dire dépendant de l'extérieur encore pour l'accès à l'eau. Alors, c'est compliqué. Quand pour accéder à l'eau, on doit pouvoir attendre des financements extérieurs, c'est compliqué. Très compliqué.
Okay. Voilà. D'accord. Oui, Abdoul Karim, oui, allez-y. Mais est-ce que selon vous, chaque année, on sait quand même qu'à Sabalibou, il y a problème d'eau, à Lassa, il y a problème d'eau, et chaque année, c'est toujours l'opération citerne. Alors, est-ce qu'au niveau de la Soumagé, vous pensez que la solution, c'est ça, pour l'accès à l'eau potable pour tous?
Nous sommes bien au courant que les populations de Sabalibou, une grande partie, n'a pas d'eau. Lassa, pareil. Mais nous n'avons pas croisé les bras. Donc nous avons fait beaucoup de choses. C'est ce que j'avais commencé à développer, oui, juste quand il y a eu le générique. C'est-à-dire, nous avons présentement des projets structurants qui sont en construction. Il y a la station de Kabbalah, la station de pompage de Kabbalah qui est en construction. Et en principe, si tout est OK, en fin 2018, début 2019, cette station va rentrer en production. Cette station, dans sa première et deuxième phase, va renforcer la capacité de la Soumagé PSA à hauteur de 288 millions de litres d'eau par jour. Ça va couvrir carrément les déficits que nous avons. Et jusqu'à l'horizon 2032. Donc, vous comprenez qu'il y a des efforts en cours. Maintenant, quand M. Damelé dit que les populations de Bangoni, ainsi de suite, sont dans les difficultés, que Soumagé n'arrive pas, j'ai bien dit que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de faire face, c'est-à-dire aux difficultés que nous avons en matière de distribution, parce qu'on est déficitaire. Donc, avec cette station qui va venir renforcer notre capacité, nous, Nous pensons que le problème, le stress hydrique à Bamako, serait pratiquement conjugué au passé composé. Donc maintenant, quand on prend le cas de Lassa, nous sommes conscients, moi-même je loge à Lassa. Soumajep n'a pas laissé Lassa, dans les bras de stress hydrique. Malgré notre difficulté, nous avons installé une station à Lassa. Il y a une station de reprise à Lassa. Et cette station de reprise a une capacité à peu près de 30 mètres cubes. 30 mètres cubes, c'est à peu près 30 000 litres d'eau. Donc, nous avons dit, compte tenu de la difficulté, parce que Lassa se trouve sur une colline. Donc, nous avons décidé de faire des bornes fontaines à partir desquelles les gens se ravitaillent. Maintenant, en plus de cela, au-delà, quand on parle de Savalibougou, Savalibougou aussi, c'est une zone qui est en altitude. Mais nous, nous avons initié un programme d'urgence qui s'appelle l'opération citerne. C'est-à-dire pour amener de l'eau potable dans les citernes, distribuer gratuitement aux populations. Et puis en plus, nous sommes en train aussi de voir, tous les jours nous travaillons sur les réseaux pour faire ces systèmes de manœuvre. C'est qu'on appelle souvent, bon je n'aime pas utiliser l'expression délestage, c'est parce que ce n'est pas ça au fait. Mais on arrive souvent à couper des quartiers les plus nantis en eau pour donner de l'eau à ceux qui sont défavorisés. Mais là encore, souvent, c'est des problèmes parce que les résultats escomptés ne sont pas souvent atteints. Donc, maintenant, juste une chose que je voulais ajouter par rapport à la rationalisation de l'eau. Nous, c'est pourquoi nous nous disons tout le temps, on fait des spots, on demande aux gens, puisque nous sommes déficitaires, que les gens acceptent d'adopter des bonnes pratiques d'économie d'eau, qu'on soit solidaire. Merci.
D'accord. Monsieur Karim Dambélé, oui, allez-y rapidement.
Mais, je voudrais, par rapport à la Soumaïa,
rapidement.
Quelle est la...
Nous sommes dans les solutions.
Ah, oui, voilà, c'est la solution.
Allez-y
exactement,
rapidement.
Par rapport aux solutions, mais en milieu rural, au-delà de Bamako, ces stations sont ici à Bamako, mais et à l'intérieur. Qu'est-ce que la SOMAGEP a prévu pour pouvoir...
À l'intérieur, ça veut dire
à l'intérieur.
Quoi?
Par exemple, vous prenez Sikasso.
Prenons Sikasso, oui.
Sikasso, qu'est-ce que la SOMAGEP a prévu comme solution pour les quartiers périphériques?
Oui, mais...
Mais là, je vais en venir très rapidement. Et puis Sikasso, bon, effectivement...
Allez-y rapidement.
Oui,
allez-y
rapidement.
Voilà, rapidement.
À Sikasso, présentement, ça dit qu'il y a un projet en exploitation qui est pratiquement fini derrière, le projet PADS. PADS est en cours, qui est pratiquement achevé à Sikasso. C'est ça qui va renforcer la capacité de Sikasso. On a même construit une usine de production à Sikasso. Donc, okay. Et puis au-delà de tout ça, l'opération citerne dont j'ai évoqué, l'opération citerne, si ce n'est pas cette année, il y a que 2 ans, Sikasso connaissait bien l'opération citerne. Ça, c'est les mesures d'urgence.
Alors,
ça, c'est en fonction de nos possibilités.
Ok. De toutes les façons, d'accord. Allez-y, en 30 secondes. Allez-y.
Nous, au niveau de la société civile, nous pensons qu'il n'y a pas de solution miracle. Que l'État doit continuer à faire des efforts, ne plus compter sur les partenaires techniques et financiers. Il faut que le budget alloué au secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement soit revu à la hausse. Ce n'est pas acceptable que dans un pays où la question de l'accès à l'eau est une priorité, que le budget continue de tourner autour de 2%. Ce n'est pas acceptable. Nous, nous sommes en train de nous battre pour que ce budget-là soit revu à la hausse parce que les investissements, c'est de l'argent.
Ok, merci. 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 Ce débat va continuer. Nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Et cette émission et toutes les autres d'ailleurs. Posez-nous vos questions également sur notre répondeur au 75 84 11 11 et au 75 84 12 12. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Diallo. Elle est mise en onde par Gagné Kanté et Aliou Sidibé pour la présentation. À demain pour un autre grand dialogue. Merci.
Le grand dialogue.
Sigi Kanfoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kanfoba.